À l'inverse, les médicaments recyclés hors patient, tels que l'ivermectine, la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine n'incitent pas les sponsors BECFA ou Big Pharma à mener le BECRCT obligatoire. Compte tenu de ce handicap structurel, de nombreux médicaments efficaces, y compris l'ivermectine, la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine sont par conséquent incapables de ne jamais répondre aux normes BECFA pour approbation dans un tel système. Dans les cas de l'ivermectine, la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, elles sont alors considérées. D'abord par les grandes PVVIH, puis dans les grands médias et les grands médias sociaux, comme non prouvées car elles manquent de preuves suffisantes et donc fortement censurées du débat public et de la sensibilisation. Les mentions d'ivermectine sur les grands médias sociaux ont conduit à la suppression d'un groupe Facebook populaire, Ivermectin MD Team, avec plus de 10 000 abonnés. De plus, toutes les vidéos YouTube mentionnant l'ivermectine dans le traitement de Covid-19 ont été supprimées ou démonétisées. Ainsi que les pages Twitter verrouillées. De plus, dans les grands médias, fournisseurs de désinformation médicale, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine ont été purement diabolisés. Un système de santé structuré pour fonctionner de cette manière est clairement vulnérable, est trop influencé par les entités ayant des conflits d'intérêts financiers. De plus, depuis le Covid, de tels systèmes ont évolué pour fonctionner de manière rigide via des décrets contraignants et une censure généralisée. Cet obstacle s'est présenté comme une horreur durable tout au long de la pandémie supposée, étant donné le nombre de décès généralisés, causés par le refus systématique d'utiliser de nombreux médicaments rapidement identifiés, sûrs et efficaces. Par ailleurs, et pour la première fois dans la carrière de nombreux médecins, ceux qui cherchent à traiter leurs patients avec de telles thérapies, sur la base de leur interprétation professionnelle des preuves existantes, sont limités par leurs employeurs ou des décrets d'en haut sous la menace de sanctions administratives ou judiciaires, pour les contraindre de suivre des protocoles reposant principalement sur des produits de l'ingénierie pharmaceutique expérimentale qualifiés du nom impropre de vaccin. Dans le cas de l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, ils la castent de censeurs ignorent volontairement les multiples méta-analyses d'experts publiées sur les OCR, essais randomisés et contrôlés. Portant sur des milliers de patients, rapportant la preuve des réductions constantes de la mortalité, du délai de récupération clinique, et du délai de clairance virale. Ces améliorations sont constatées de manière cohérente et répétée, quelle que soit la conception, la taille ou la qualité des OCR, et dans divers centres et pays du monde entier. Toutes les études ont été réalisées sans aucun conflit d'intérêt identifié, pour la grande majorité des comparaisons de normes de soins en double aveugle, en simple aveugle, quasi randomisé, en ouvert, des traitements d'association, etc. À défaut d'explications crédibles de l'absence de recommandations, même faibles, pour l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine dans le cadre d'une augmentation généralisée des taux de mortalité due au Covid-19, il est émis l'hypothèse que cela ne peut s'expliquer que par la présence d'une campagne de désinformation active par des entités avec des objectifs non scientifiques, et largement financiers dépendant de la non-reconnaissance de l'efficacité de l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. 47. Campagne active de désinformation politico-économique. Les campagnes de désinformation sont lancées lorsque la science indépendante interfère ou s'oppose aux intérêts des entreprises ou des décideurs. Bien que heureusement rare, dans certains cas, ces entités chercheront activement à manipuler la science et à déformer la vérité sur les découvertes scientifiques qui mettent en péril leurs objectifs de profit ou de politique. Développées pour la première fois par l'industrie du tabac il y a des décennies, ces tactiques trompeuses sont les suivantes. The fake. Mener une science contrefaite et essayer de la faire passer pour une recherche légitime. The blitz. Harceler les scientifiques s'exprimant avec des résultats peu pratiques pour l'industrie. De diversion. Fabriquer l'incertitude sur la science là où il en existe peu ou pas. L'écran. Acheter de la crédibilité grâce à des alliances avec des universités/sociétés professionnelles. La solution, manipuler les processus gouvernementaux pour influencer les politiques de manière inappropriée. De nombreux exemples des tactiques de désinformation par les entreprises et les décideurs, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, ont été documentés. George Pacific publie une fausse science sur les dangers de l'amiante, The Fake. Merck manipule la science autour du médicament Vioxx, The Fake. La NFL intimidant et discréditant des scientifiques rapportant un lien entre le football et les traumatismes crâniens, The Blitz. GlaxoSmithKline a tenté de faire taire le scientifique qui a exposé les dangers de son médicament. Avandia, Blitz. L'American Chemistry Council sème l'incertitude sur les risques liés au formaldéhyde, de diversion. Purdue Pharma s'associe à des centres universitaires pour cacher les dangers des opioïdes, The Screen. Pfizer fait pression sur la FDA pour qu'elle minimise le risque de son médicament animal causant un taux élevé d'arsenic, The Fix. À sa agence française de sécurité sanitaire des aliments par un rapport en faveur des industriels avait conclu que le risque pour la santé des consommateurs, est considéré comme négligeable. En ignorant et cachant tous les études scientifiques sur le plus gros scandale sanitaire au monde, le PFOA. Appelé ces 8 substances mortelles et cancérigènes, le téflon. The Fake. Pièce 53. Le plus inquiétant est que l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine semblent être confrontés à l'une des plus grandes oppositions financières et politiques mondiales de l'histoire moderne. De nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques et nations souveraines vendent des milliards de doses de vaccins. L'échelle du marché des vaccins augmente maintenant de façon exponentielle en raison du marché en développement des injections de rappel contre des variants apparaissant rapidement. Big Pharma promet maintenant aux investisseurs de recourir à des hausses de prix sur les vaccins alors que le Covid-19 passe d'une pandémie à une endémie. Des informations, le panel de l'OMS rejette/ignore la plupart des bases factuelles disponibles. Des informations, le groupe d'experts de l'OMS évite de soumettre l'épreuve de l'ivermectine au vote. Des informations, la FDA a publié des avis exagérant les dangers de l'ivermectine et contre l'utilisation de l'ivermectine, malgré le fait de ne pas avoir examiné les données des essais. Des informations, le sponsor d'United influence la rédaction des conclusions du manuscrit. 48. Des informations, l'EMA, Agence européenne des médicaments, prétend à tort que des traitements efficaces sont inaccessibles. De nombreux big pharma/big pharma craignent que le potentiel de l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine en tant qu'alternative au vaccin augmente l'hésitation à la vaccination et perturbe les déploiements de masse de vaccination. Les opposants comprennent de grands sponsors philanthropiques ayant des objectifs mondiaux de vaccination. Des informations, le groupe OMS ne passe pas en revue les essais de prévention de l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. De nombreux investissements de grandes sociétés pharmaceutiques dans des thérapies novatrices, CAD. Les antiviraux oraux de Merck, Pfizer et Gilead, sont directement en concurrence avec l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Des informations, Merck publie un article sur son site web, sans preuve scientifique à l'appui, ni auteur scientifique nommé, indiquant que, il n'existe aucune preuve d'un mécanisme d'action, d'efficacité clinique ou de sécurité dans le Covid-19. Des informations, un directeur général de Merck plaide contre l'utilisation aux Philippines en déclarant « Les niveaux de preuve ne sont pas conformes aux normes ». Investissement de la société Big Pharma, AstraZeneca, dans un produit d'anticorps à action prolongée pour la prévention et le traitement du Covid-19, qui est en concurrence avec l'ivermectine. De nombreux produits d'anticorps monoclonaux de Big Pharma qui concurrencent l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. La demande de remdesivir de Big Pharma diminuerait rapidement les hospitalisations. En l'absence d'explication rationnelle des actions ci-dessus de la part de l'OMS, Merck, FDA et United. Nous concluons qu'elle résulte d'une campagne active de désinformation, exécutée à la fois par les PVVIH, les médias et les recommandations du groupe de directive de l'OMS et les politiques. Les allégations d'inconduite scientifique dans la rédaction du manuscrit de méta-analyse de l'équipe de recherche OMS/United sont profondément troublantes. Elles représentent clairement une tactique de désinformation dans le but de déformer et de diminuer la déclaration d'un bénéfice de grande ampleur sur la mortalité parmi plusieurs centaines de patients concernant des traitements potentiels. La conclusion est que les préoccupations de nombreux big pharma et big pharma sont que si l'ivermectine ou la chloroquine ou l'hydroxychloroquine sont approuvées comme traitement efficace contre le Covid-19, les EUA pour tous les vaccins seraient révoqués comme l'exige la règle. 49. Refus de traitement. À défaut d'explications rationnelles, l'OMS, Merck, FDA, United, l'ensemble de la classe politico-économique de chaque État, Big Pharma/BIGFA, exclut tout traitement possible au profit d'un produit d'ingénierie pharmaceutique expérimentale, vaccin supposé avec EUA, et tente d'imposer un traitement sous le nom de Remdesivir dont la dose était vendue entre $350 et $3400 pour un traitement qui s'avère aujourd'hui être catalogué de scandale du Remdesivir, obligeant finalement l'OMS à déconseiller son utilisation, soulignant la possibilité d'importants effets secondaires, notamment pour les reins. Ainsi la Commission européenne a acheté en précommande pour 70 millions d'euros de doses, soit 345 euros la dose, pour 200 000 doses de Remdesivir, sur la base d'une simple étude commandée par les mêmes protagonistes déclarant le dit médicament efficace contre la mortalité du Covid-19. Rappelons que les premières études effectuées dans les hôpitaux de Wuhan n'étaient pas satisfaisantes, ne montrent aucune efficacité sur la mortalité. Gilead a donc redemandé une étude, en changeant la règle qui ne recherchait plus l'efficacité sur la mortalité, mais la durée de récupération, aussitôt démentie par une multitude d'études indiquant « absence d'efficacité du médicament sur la mortalité et temps de récupération 2 jours de moins au lieu des 5 jours annoncés ». Conformément aux traités européens, la Commission européenne n'avait ni le droit, ni le pouvoir, de prendre une telle décision au nom, et pour le compte des États, le domaine de la santé étant du seul ressort des États. Cet empressement irresponsable à investir dans ce médicament avec les deniers du contribuable soumis dans le même temps à des mesures répressives témoigne d'un abus arbitraire. Alors que, le coût de fabrication du Remdesivir est de moins de $0,94 par dose, soit 420 fois moins cher que le prix effectivement payé par Bruxelles. Gilead, qui fabrique le médicament, a très bien négocié la commande, surtout lorsqu'on sait qu'un pays comme l'Ukraine a pu bénéficier d'un générique en septembre 2020 à $20,45 la dose, lui permettant d'améliorer un chiffre d'affaires en hausse de 17% au troisième trimestre et en bénéfice net de $360 millions. Malgré cette supercherie technico-commerciale afin d'écouler les doses que le laboratoire n'a pas utilisées lors des essais cliniques menés en Afrique contre Ebola avec une efficacité médiocre et non thérapeutique, la Commission européenne affirme qu'il n'y a pas de scandale et que pour l'instant l'Agence européenne du médicament, EMA, maintient son autorisation d'utilisation de mise sur le marché. Conditionnel, bien qu'ayant reçu le projet de publication d'une étude scientifique menée à grande échelle, l'essai Solidarity financé par l'OMS qui conclut, point apparaissent avoir peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés, que ce soit en termes de mortalité, de mise sous respirateur ou de durée d'hospitalisation. Le laboratoire Gilead avait reçu, selon une obligation contractuelle, le manuscrit avant la signature de l'accord de commande. Il savait donc que l'étude Solidarity concluait à l'absence d'efficacité du médicament. Lorsqu'il a signé, il n'en a rien dit, ce qui aurait pu selon le droit des contrats être retenu comme relevant du dole, mais la Commission européenne a quand même versé l'argent prélevé sur le fonds d'aide d'urgence, SI. Le 15 juillet 2020, la France accorde une autorisation temporaire d'utilisation, ATU, à Gilead pour le Remdesivir. En août et en septembre, la Commission assure de livraison aux États qui en font la demande, dont la France. 50. Quelle est l'explication qui privilégie le Remdesivir alors qu'il est reconnu inefficace, plutôt que l'ivermectine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine qui a été purement interdit par les pouvoirs politiques au risque d'engendrer une multitude de décès à travers le monde par refus de traitement au profit d'un arrangement politico-économique avec Big Pharma / Big Pha? Le comité scientifique français est dirigé par Delfrécy et Yazdan Apana, membres en conflit d'intérêts, travaillant pour les laboratoires pharmaceutiques en cause. Dans un courrier électronique entre Delfrécy et Fossi du NIAID, aux États-Unis, Delfrécy exprimant son désaccord concernant la chloroquine prétextant qu'il n'existe aucune étude. Ce désaccord réitéré est retransmis dans une notification à Emmanuel Macron, président de la République française, le directeur de Gilead ayant demandé unilatéralement au président la suppression de la chloroquine au profit de son Remdesivir. Pièce 54. Alors que, selon l'étude publiée le 22 août 2005, chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread par Martin J. Vincent, Éric Bergeron, Suzanne Benjanet, Bobière Erickson, Pierre Rollin, Thomas G. Ziadzek, Nabil G. Seda et Stuart T. Nicole, Revue de Virologie, le volume 2, numéro d'article, 69. 2005, 849 citations, 33251 altmétriques. Tout membre du CDC ou de l'IRCM. Special Pathogen Spratch, Division of Viral and Rickettsial Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 1600. Clifton Road. Atlanta, Georgia, 30333, USA and the Laboratory of Biochemical Neuroendocrinology, Clinical Research Institute of Montréal, 110 Pinave West, Montréal, QCH2W1R7, Canada. S'appuyant sur 26 références. La chloroquine est un puissant inhibiteur de l'infection et de la propagation du coronavirus du SRAS. SARS-CoV. La chloroquine, un médicament relativement sûr, efficace et bon marché utilisé pour traiter de nombreuses maladies humaines, notamment le paludisme, l'amibiose et le virus de l'immunodéficience humaine, est efficace pour inhiber l'infection et la propagation du SRAS-CoV en culture cellulaire. Le fait que le médicament ait un effet antiviral inhibiteur significatif lorsque les cellules sensibles ont été traitées avant ou après l'infection suggère une utilisation prophylactique et thérapeutique possible. / Virology. Journal 2005, 22.69.10.1186.743.422x269 Received, 12 July 2005 Accepted, 22 August 2005 This article is available from http://www.virologie.com/content/2/1/69, pièce 55. Cependant, la campagne de désinformation a consisté à commander plusieurs études manipulées, en culture tissulaire, dans les cellules pulmonaires en prétextant que cela pouvait fonctionner dans les cellules rénales, mais pas dans les cellules pulmonaires, faisant croire à l'inefficacité de la chloroquine en prétendant la chloroquine n'inhibe pas le SARS-CoV-2 afin de réfuter les preuves au point que cela est grotesque et intentionnel. Ainsi les protagonistes de la désinformation ont fait croire que le virus s'attaquait aux poumons, en oubliant de préciser qu'il s'agissait d'un adénocarcinome pulmonaire, en un mot des cellules cancéreuses qu'à l'U3 on se croirait revenu dans un remake du film Le Fugitif, où les laboratoires pharmaceutiques trafiquent les données scientifiques pour l'autorisation de la mise sur le marché d'un médicament, à partir d'un foie normal et cancéreux. Dès lors il pourrait être pris l'interprétation inverse qui est vous venez de prouver que lorsque des virus sont présents, et que la chloroquine est présente, la chloroquine permettrait au virus d'attaquer une cellule cancéreuse atteinte de SARS-CoV-2 et donc que cela protège une cellule normale atteinte de SARS-CoV-2, car les récepteurs sont différents. Ceci est une interprétation volontairement erronée des laboratoires pharmaceutiques. Pièce 56.